FM avec les Échos, l'émission business qui donne envie d'entreprendre. Philippe Bloch, Arnaud Le Gall sur BFM Business.
Allez, pour cette dernière partie d'émission, toujours bien sûr en compagnie de Jean-Paul Siré, le fondateur du Noblage, on reste entre entreprises qui cartonnent, puisque on va aborder un sujet intéressant, parce qu'il est quand même pas fréquent en ce moment en France, c'est comment concilier croissance et rentabilité avec un as en la matière, Geoffroy de Bec de Lièvre, fondateur de Marco et Vasco, et puis notre entrepreneur chroniqueur. Bonjour Geoffroy.
Bonjour Philippe.
Plaisir de vous accueillir sur des bonnes nouvelles, parce qu'apparemment les chiffres sont top, c'est-à-dire que vous n'arrêtez pas de grandir dans un marché qui n'est pas forcément évident, et vous êtes numéro super en tout, en rentabilité, en croissance.
Ouais, on a
révélons les chiffres déjà.
En 2013, on a fait une très bonne année, c'est vrai qu'il y a eu un classement dans l'industrie du voyage qui est en retrait, quand même, il faut le savoir, en 2014, y compris le e-travel, d'ailleurs y compris sur Internet pour la première année.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on a réussi en 2013, en tout cas dans le palmarès financier, à être numéro 1 de la croissance avec 62% de croissance, donc c'est Marco et Vasco, croissance organique je précise,
ouais.
Et également numéro 2 en rentabilité. Et c'est vrai que c'est parfois on est soit bon en croissance, ça coûte cher, on brûle du cash, et souvent au détriment de la rentabilité, ou
bien
l'inverse.
Sûr.
Et là on a réussi à trouver un modèle qui nous permet de concilier les deux.
Sachant que les chiffres sont impressionnants, là on parle de pourcentage, mais en chiffres ça donne quoi cette année Marco et Vasco?
Alors l'année dernière 60 millions, en 2014 on sera autour de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Alors Arnaud nous racontait en coulisses qu'Arnaud a publié dans les Échos un papier disant
que le
e-tourisme n'était pas en grande forme et il était super actif notre ami Geoffroy.
Votre agence de presse je pense le jour même ou le lendemain a diffusé un communiqué qui rebondissait donc sur cette actualité, ce qui créait déjà une première accroche et qui mettait en avant effectivement vos performances. Et je disais juste en antenne, je vous l'ai déjà dit mon cher Geoffroy, que je trouvais que pour le coup c'était une vraie opération de communication réussie, parce que c'était de l'ultra ciblé, c'est ce qu'il faut faire plutôt que de balancer ses communiqués de presse.
Oui. Que personne ne lit, quelle journée, personne n'ouvre. Mais Geoffroy, on va peut-être mettre en interaction d'ailleurs Geoffroy et Jean-Paul Siré, parce que au fond, quelle est la recette justement? Vous dites c'est rare, vous avez raison, c'est rare de concilier une très forte croissance et une très forte rentabilité. C'est toujours été aussi un de vos objectifs, Jean-Paul Siré. Comment faites-vous dans votre métier pour y arriver? Et puis peut-être Jean-Paul, pouvez-vous le taquiner aussi et le challenger? Geoffroy, comment fait-on?
Alors, nous, on a beaucoup réfléchi déjà aux leviers de croissance en interne et on a défini quelques leviers. Alors, quand on vend des voyages, on est surtout un producteur-distributeur.
Voilà, rappelons que vous êtes producteur de voyages sur mesure.
Voilà, de voyages sur mesure. Marco Vasco, c'est que du voyage sur mesure, long courrier.
Et le sur mesure est sans doute un des éléments clés justement dans les résultats.
Voilà, bien sûr. Oui, parce que ça permet déjà de travailler sur un des leviers, qui est le pourcentage de marge brute où on crée de la valeur. Donc déjà, on va mieux marger que quand on est un simple distributeur.
Mm-hmm.
Nous, on a identifié quelques leviers qui sont assez classiques. C'est déjà, un, le nombre de contacts que l'on a sur notre site web Marco Vasco. Deux, le taux de conversion. Trois, la valeur moyenne du panier. 4, le nombre de transactions par an, et 5, la marge brute. Et on travaille sans arrêt, on a modélisé sur chaque destination ces leviers, et à chaque fois on ajuste, on fait des essais, vraiment on pilote ça avec beaucoup beaucoup de précision, et chaque levier va avoir un impact différent sur le résultat.
Mais prenons des exemples pour qu'on comprenne bien, sur l'un ou l'autre de ces leviers,
veut passer de 10 millions, enfin nous on faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires il y a quelques années, pour faire 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Concrètement, ça nécessite combien de clients? Voilà, tout simplement. Après, on sait qu'on a un taux de conversion de X entre le nombre de visiteurs sur le site web et le nombre de clients.
Mm-hmm.
Donc, ça nécessite d'avoir combien de millions de visiteurs.
Mais alors, du coup, pour les générer, ces millions de visiteurs, on achète quoi? Des mots-clés?
Vous achetez des mots-clés, ou vous faites des partenariats, vous faites des choses comme ça.
Oui.
Et en fait, déjà, ça permet de savoir la volumétrie et le nombre de visiteurs à obtenir sur son site. C'est la première chose. Ça sert à rien de dire, je vais faire 70 millions, ce qui nécessite d'avoir 500 000 visiteurs par mois, si on n'a pas les moyens d'avoir 500 000 visiteurs par mois. Donc, en fait, ça a permis vraiment de modéliser, de savoir le trafic que l'on souhaitait avoir. Et puis après, il y a d'autres leviers. Il y a le pourcentage de clients qui reviennent, qui est un levier très important.
Bien sûr. Il est bon celui-là?
On le travaille, on est passé de 5 à 20% en un an, donc on est content, mais on n'en est encore qu'au début.
On n'est qu'au début. Jean-Paul Siré, réaction à tout ça?
Mais il a tout dit dans un mot. Modèle. Quantité d'entreprise, contrairement à ce que disent certains chefs d'entreprise, n'ont pas de modèle. C'est-à-dire, pas de critères d'investissement. Le modèle de certains entrepreneurs, c'est « je serai le plus grand, je serai le plus gros, je serai le plus ». Non, quand on pense modèle, on pense pérennité. Et quand on pense pérennité, on pense critères d'investissement, critères d'exploitation, critères de rentabilité.
Est-ce que tout est modélisable?
Beaucoup de choses sont modélisables.
Ouais, j'en suis convaincu. Hein. Nous, on n'avait pas fait cet exercice avant, mais je pense beaucoup de choses en fait.
Ça vous a pris un matin ou vous avez été aidé là-dessus sur ce genre de choses? Parce que les entrepreneurs qui nous écoutent, qui disent bon alors, ouais, je me fais engueuler par Jean-Paul parce que je veux être le plus gros, mais je suis pas modélisable. Je crois qu'il
j'ai pas de critères d'investissement,
j'ai pas de
critères de rentabilité.
Je sais pas où je vais. Mais comment quand on est entrepreneur comme vous, Geoffroy, et comme vous, Jean-Paul, mais j'ai le sentiment vous, Jean-Paul, vous êtes toujours beaucoup modélisé. Votre approche tout à l'heure, peut-être vous la décriviez, était vraiment sur ces thèmes-là. Mais vous dites vous-même, vous avez évolué en fait, Geoffroy. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on bouge? Qui nous aide à bouger dans ces domaines?
Moi, c'est de rencontre.
Un modèle évolue. Mais il faut d'abord en déterminer un dès le départ.
Oui. Voilà. Les modèles évoluent tout le temps. Et moi, c'est une rencontre d'une personne qui m'a remis un jour un bouquin et qui avait écrit comme ça sur les 5 leviers. J'étais un peu étonné. Et puis j'ai lu ça un week-end. J'ai trouvé ça assez génial. Et en fait, je me suis rendu compte que quasiment tout est modélisable. C'est peut-être plus facile online, mais même à la limite dans un business traditionnel, en B2B, c'est combien de visites clients vous devez faire pour avoir de ventes, combien de clients doivent rentrer dans votre boutique pour avoir de ventes, à partir de laquelle est la vente moyenne, etc. En fait, je pense qu'on peut modéliser beaucoup de choses et ça pérennise l'entreprise. Surtout, ça donne une visibilité sur le comment grandir véritablement.
Et si on reste, Geoffroy de Bagdelef, sur le sujet que j'évoquais au début de cette dernière partie d'émission, sur la combinaison croissance et rentabilité, est-ce qu'il y a là-dessus des clés ou est-ce que c'est la même réponse, c'est le modèle?
Ça va être la même réponse. Par contre, on n'appuie pas sur les mêmes leviers. Clairement, si vous voulez travailler la rentabilité, vous allez travailler le pourcentage de marge brute, comment créer de la valeur et marger davantage pour un niveau de contact identique ou pour un chiffre d'affaires identique. Là également, tout ce qui est pourcentage de fidélité de clients va permettre de travailler la rentabilité. Donc après, et puis en fonction des métiers, on va appuyer sur un modèle qui sera pas forcément le même pour un autre métier. Donc après, c'est à chacun de jouer sur ces différents leviers et puis de trouver celui qui correspond le mieux.
Jean-Paul?
Oui, lorsque vous avez un modèle, on l'a dit, il est fait pour évoluer, mais en ce qui nous concerne, par exemple, lorsque l'on dit aujourd'hui, au stade où on est, c'est bonhomme à l'an, 600 lits par an, eh bien, ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y aura pas 1500 ou 2000 lits, mais à condition que ça puisse être modélisable rapidement, rentrer dans notre modèle. Si ça ne peut pas, on refuse constamment des offres qui nous sont faites, puisqu'on sait que le pas est beaucoup trop grand. Déjà, dans ce que l'on trouve sur le marché, qui va aller vers notre modèle, il nous faut 5 ans. 5 ans pour le modéliser. Si on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas modélisable dans les 5 ans, on ne reprend pas. Et je dirais que ça ne nous empêche pas de continuer à le développer et avoir... Mais c'est toujours respecter nos critères.
Voilà, chaque décision de rentrer dans le modèle, ou bien on ne l'apprend pas. Geoffroy de Bagdelef, je reviens sur l'entreprise, parce qu'on a beaucoup évoqué avec Jean-Paul Sirette les aspects... capitalistique, parce qu'il est dans un métier très capitalistiquement intensive. Est-ce que c'est le cas du vôtre, et comment est-ce que l'on marie croissance, rentabilité et indépendance financière, parce que tout entrepreneur a envie de rester aussi indépendant? Est-ce que cette problématique, cette dimension vient s'ajouter à votre réflexion stratégique en fait?
Alors nous, on a la chance dans le monde du voyage d'avoir un besoin fondement qui est négatif. Donc déjà, c'est relativement peu gourmand en cash. Après, voilà, ça reste le cash des clients, et on fait la différence entre la trésorerie brute nette et ne pas se développer sur la trésorerie des clients.
Bien sûr.
Mais néanmoins, c'est pas très gourmand en cash pour démarrer. Et puis voilà, on engendre...
Donc vous êtes toujours indépendant?
Alors, on a des fonds d'investissement, maintenant on a trois fonds.
Trois fonds?
Ouais.
Maintenant, c'est depuis combien de temps? Parce que l'entreprise est née, pour mémoire, il y a combien d'années?
En 2007-2008.
C'est assez récent. Ouais. Ils sont rentrés à quel moment?
On avait Alven Capital, qui est le premier fonds qui est rentré en décembre 2007, voilà, au tout début.
Aujourd'hui, il y en a trois.
Et voilà, et maintenant, il y a Iris et Guim également.
Donc, vous êtes toujours vécu avec des fonds?
Ouais, c'est ça. Et puis moi, j'aime bien le développement. Vraiment, j'ai une obsession de la croissance liée à la rentabilité, bien sûr, mais vraiment, c'est ça qui m'amuse, c'est ça qui m'éclate, quoi.
Et c'est pas compatible avec ce sentiment de liberté qui vous fait entreprendre, quoi.
Non. Voilà. Et voilà, je préfère avoir plus de moyens pour bien développer la société.
Jean-Paul Sirette aussi,
mais pas de problème. Moi, j'ai toujours eu des associés. Il suffit d'être transparent.
Des associés, mais pas forcément des fonds.
Mais c'est un problème. J'ai des fonds aussi.
Oui, en bourse aujourd'hui, oui.
Oui, vous avez la bourse, vous ne faites pas de sentiments et pas de cadeaux.
Non, c'est clair. Il y a quand même les associés du début qui mettent de l'argent à quelqu'un en qui ils ont confiance. Les fonds, c'est quand même une autre discipline, mais la bourse, c'est encore autre chose.
Ok, mais si vous êtes transparent, les gens qui rentrent chez vous savent très bien pourquoi ils rentrent. Mais si vous ne dites pas tout, ils ne savent pas toujours pourquoi ils rentrent. Donc ils auront...
Ils savent pourquoi ils sortent, par contre.
Et ils savent pourquoi ils sortent, c'est clair. Donc, vous avez été très clair, très transparent, je dirais qu'y compris même vos actionnaires en bourse savent très bien pourquoi ils viennent chez vous ou pourquoi ils n'y viennent pas.
Ouais.
Est-ce que l'entreprise joue la durée, la pérennité, ou est-ce que tous les 4 ans, on fait que la mariée soit la plus belle possible. Pourquoi j'ai pris 4 ans? C'est souvent le turnover des fonds.
Bien sûr. Geoffroy, vous disiez tout ça en croissance organique. C'est-à-dire que la croissance externe ne fait pas partie de la stratégie et qu'il n'y a pas aujourd'hui de cible potentielle racheter ou pas.
Clairement, c'est d'autres leviers. Là, on ne parle que de croissance organique.
Absolument.
Je trouve que c'est la plus confortable parce qu'on maîtrise.
Oui.
On maîtrise son modèle, son activité, ses leviers, etc. Après, la croissance externe, nous, on commence à regarder, mais on y met deux conditions. La première, c'est de continuer à faire un fort pourcentage de croissance organique.
Oui.
On ne veut pas ne se développer que sur la croissance externe. Je ne crois absolument pas à l'addition de chiffre d'affaires. 6 fois 10 ne font pas 60. Il y a quelqu'un qui a fait ça dans le e-travel. Ça s'est fini à 1 euro à la barre du tribunal. En plus, on est très dépendant des systèmes d'information.
Mm-hmm.
Donc j'y crois pas forcément. Et puis, la deuxième condition, c'est un apport métier et puis surtout création de résultats additionnels. J'avais rencontré quelqu'un qui a acheté 105 boîtes. Il m'a dit, Geoffroy, la seule condition, c'est il faut que ça rapporte de l'EBITDA additionnel. Je trouvais ça assez incroyable, mais c'est vrai qu'on y pense dans ce sens. Et quand on pense à croissance externe avec création de résultats additionnels, finalement, il n'y a plus tant d'acteurs que ça, quoi.
Donc, on en parlera dans les prochaines chroniques, peut-être.
Voilà.
Mais c'est encore un peu tôt. J'ai compris.
C'est un peu tôt.
J'ai compris. Merci, Geoffroy de Bec de Lièvre, de nous avoir un peu mieux éclairé sur, bravo aussi pour cette belle performance rentabilité et croissance de Marco et Vasco. Merci, Jean-Paul Chiré, de nous avoir bien fait connaître et mieux fait connaître le noblage et cette belle aventure qui est repartie pour 25 ans, tel qu'on l'a compris.
Merci, au revoir.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Fin de l'émission. Restez avec nous sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition, la 422e. À bientôt. Ciao.